Donc, là, je t'écoute.
Oui, ben c'est passé il y a donc plus d'un demi-siècle. Tu sais que j'ai fait mes études de théologie à Clermont-Ferrand en tant qu'Alsacien. Au bout de mes études, pour que je ne sois pas rapatrié en Alsace et envoyé en Russie, comme beaucoup de mes camarades l'ont été, on m'a envoyé comme vicaire dans une communauté protestante à dans la. Et là, j'étais logé chez une des personnalités protestantes du coin. Il était directeur d'une ganterie, d'une fabrique de gants. Un monsieur qui s'appelait dans une villa, dans une des principales avenues de. Et là, j'habitais une mansarde. Et c'est seulement une bonne année après avoir été logé là que je me suis rendu compte que cet homme était le chef du maquis de la région. Un homme qui parlait pas beaucoup, assez sec, mais un homme visiblement très énergique. Moi, je m'en suis aperçu, en tout cas un jour, j'étais invité à déjeuner chez les. Il y avait un officier anglais à la table, un aviateur. Et bon, alors là, j'étais au courant de ces activités latérales.
Il t'a mis au courant comme ça?
Non, pas du tout. Enfin, oui. Je m'en étais pas douté, vraiment. Parce que ces choses-là ne se disaient pas. Mais il m'a fait confiance. Bon. Le temps a passé et je ne sais même plus exactement la date. Ma mémoire de ce côté-là est faible, mais c'était un dimanche, je crois vers la fin de l'année 44, en automne 44. J'avais à faire le culte parce que le pasteur du lieu s'était absenté, je ne sais plus pour quelle raison. Et c'est moi qui faisais le culte, et avec la prédication, ce qui est toujours là dans le culte protestant, c'est la partie la plus importante du culte. Et bon, j'étais mal foutu, j'avais plus de 39 de fièvre ce jour-là. Et après l'office, je rentre avec Madame et ses petits-enfants qu'elle avait amenés. Il y avait l'office des enfants, après l'office des adultes. Et on arrive à 100 mètres de chez elle. Moi, j'étais tout prête à aller me coucher dans ma mansarde. Elle m'arrête, elle me dit « Retournez au presbytère. Voyez la voiture noire qui est devant chez nous, c'est la Gestapo. Ils viennent de prendre mon mari. » Ah, tu parles. Alors je sais pas, moi je suis retourné au presbytère, effectivement. Je me suis mis au lit, la femme du pasteur m'a soigné. Le lendemain, je devais aller à Clermont-Ferrand, où il y avait mes frères. J'ai trois frères, on était réfugiés enfin, avec l'université de Strasbourg à Clermont-Ferrand. Mes trois frères plus jeunes, je devais les visiter le lundi. Et je voulais partir à tout prix. J'ai bu de tisane chaude, le lendemain j'avais tellement sué que j'étais à peu près guéri. Je suis parti à Clermont. Le lendemain, le mardi donc, je vois arriver un de mes copains, nous étions responsables des éclaireurs, ensemble, il s'appelait, son père était pasteur aussi d'ailleurs, il travaillait dans l'usine de M. et il me dit, pas question que tu reviennes, on te cherche. Bah, c'était évident, ils ont dû fouiller la maison, ils ont dû trouver ma chambre avec mes papiers ou je sais pas quoi. Enfin,
tout est fait. Ouais.
T'as pas le choix, il faut que tu prennes le maquis. Moi, innocent comme je suis et avec ma bonne conscience, je dis écoute, j'ai pas envie de devenir guerrier, j'ai pas envie de. J'ai aucune raison de me cacher. Je rentre. Moi, je suis rentré avec lui, je suis allé tout droit me présenter à la commandantura, la commandantour. Là, il y avait un... Enfin, il était wurtembergeois, visiblement, d'après son accent. Un brave homme, visiblement pas méchant du tout. Je dis, voilà, monsieur, je me présente parce qu'il paraît que vous me cherchez. Il me regarde d'un air, je n'oublierai jamais, comme s'il voyait apparaître un fantôme. Et il me dit oui. Et il me montre la photo qu'ils avaient trouvée dans ma chambre. Et c'est bien à vous. Oui. Il va falloir que je prévienne la Gestapo. Je dis, faites. Alors il prend le téléphone. Il téléphone. Et il voulait encore ajouter quelque chose. Puis il raccroche et dit, je dois vous amener tout de suite. Ah, il était visiblement embarrassé. Alors il me dit, oui, enfin, vous êtes pasteur? Oui, alors écoutez, vous pouvez peut-être me répondre à une question que je me pose depuis longtemps. N'est-ce pas, le Christ, il est venu sur la terre. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu justement dans le peuple juif? C'est pas pour un nazi, cette question. Moi, je ne sais pas si j'étais inspiré par le Saint-Esprit. En tout cas, du contact, je lui ai répondu. Vous savez, nous sommes tous plus ou moins tricheurs, menteurs ou enfin, profiteurs de toutes les manières, chacun à sa manière. Et vous savez, les Juifs, ils sont particulièrement doués de ce côté-là. Et le Christ, il est venu pour justement pour aider l'humanité là où elle en a le plus besoin, où elle est le plus... Il est donc allé là. Le gars, c'était une illumination pour lui. Visiblement, alors, ma cote a grimpé. Alors, il a dit, ben, il m'a fait apporter une soupe. Il était 11h du matin ou quelque chose comme ça. Et puis, il m'a chargé dans sa voiture avec deux gardes pour m'encadrer. Il a pris le volant lui-même. Et il m'a amené à où était la Gestapo. Là, je suis arrivé, donc, pendant tout le voyage, il y avait 60 km entre... Silence de mort, si on peut dire, oui, enfin, et tout le monde était coincé. J'étais peut-être moi le plus détendu là-dedans, mais je sais pas, enfin, je savais pas du tout ce qui m'attendait. Je suis arrivé là-bas dans une villa, on m'a enlevé ma ceinture, mes lacets de souliers, un gorille m'a monté dans une mansarde où il m'a enfermé, et je savais pas pour combien de temps j'y étais. Puis voilà qu'au bout de trois quarts d'heure, il redescend, il remonte et il me dit, voilà, il faut que vous descendiez. Et je descends d'un étage et là, à travers la porte ouverte, je vois mon commandant de attablé avec le visage vers la porte. Le garde de la Gestapo était en face de lui, le dos tourné vers la porte. Et au moment où j'entre, mon commandant là me fait un petit clin d'œil. Je dis, bon, les choses vont bien. Effectivement, le gars de la Gestapo me dit, ben, vous savez, je ne vais pas vous interroger, de toute façon, vous ne me direz rien si vous savez quelque chose, mais de toute façon, le commandant, il s'appelait mais ça confirmait le fait de ça, son origine. Il s'est porté garant pour vous. Et voilà. Et je suis reparti avec ces deux hommes. Et pendant tout le voyage du retour, ça causait. Oh, vous savez, la France, j'ai été là et là, etc. Du coup, l'atmosphère était détendue. Et le brave homme était soulagé, pas autant que moi, il faut dire. Parce que si j'étais tombé entre les pattes du gorille, monsieur, soit dit pour la fin de l'histoire, il est mort, on ne sait pas exactement quel jour.
Tu l'as jamais revu?
Je ne l'ai jamais revu, oui. Oui, enfin, la version de la Gestapo, c'est qu'il s'était suicidé. Seulement après, on a retrouvé son cadavre, on a vu, on l'avait torturé, il n'avait rien dit. Ça, c'est évident, ce monsieur était vraiment un homme d'un cran extraordinaire. Et le brave, ben, il est mort quelques mois après parce que au moment du débarquement dans le sud, les Alliés remontaient vers le nord et les Allemands se sont formés en colonne pour évacuer le territoire vers le nord. Et la colonne, à peu près de 1500 hommes, dont faisait partie et les gens de la Gestapo aussi d'ailleurs, ils ont été massacrés par la résistance, non loin d'ailleurs de sont tombés dans une embuscade et il paraît qu'il n'y en a pas un qui a réchappé. Voilà mon aventure avec la Gestapo.
Et tu penses donc que tu as été sauvé, si on peut dire, parce que tu l'avais éclairé sur la question qui t'a
posée.
Oui,
je crois, ça lui a vraiment répondu à une question qui était importante pour lui. Et ma cote a grimpé d'autant. Et il a pris ma défense personnellement, de façon efficace, manifestement. C'est assez impressionnant.
Bon, ben merci.
Mais je t'en prie.